Allez, le génie, accouche. Plus vite tu te décideras, plus vite ce sera terminé. Rothstein soupira et récita la combinaison du coffre Gardal qui se trouvait dans le placard de son bureau. 3 à gauche, 2 tours. 31 à droite, 2 tours. 18 à gauche, 1 tour. 99 à droite, 1 tour. Et retour sur 0.
Sous le passe-montagne, les lèvres rouges s'étirèrent encore, découvrant maintenant des dents.
J'aurais pu deviner, c'est ta date de naissance.
Alors que Jaune criait la combinaison à l'homme dans le bureau, Rothstein se livra à certaines déductions déplaisantes. Monsieur Bleu et Monsieur Rouge étaient là pour l'argent. Peut-être que Monsieur Jaune prendrait sa part, mais il ne pensait pas que l'argent était l'objectif premier de celui qui s'obstinait à l'appeler le génie. Comme pour le confirmer, Monsieur Bleu reparut, accompagné d'une nouvelle bouffée d'air froid. Il rapportait 4 sacs marins vides, 2 accrochés à chaque épaule.
« S'il vous plaît, »
dit Rothstein à Monsieur Jaune, cherchant ses yeux et soutenant son regard.
« Ne faites pas ça. Il n'y a rien dans ce coffre qui vaille la peine d'être volé à part l'argent. Le reste n'est qu'un tas de gribouillages sans intérêt pour personne, sauf moi. »
Depuis le bureau, Monsieur Rouge s'exclama.
« Bon sang de Dieu, Maury, on a touché le gros lot! Youhou, les copains! Il y a une tonne de billets là-dedans! Encore dans les enveloppes de la banque! Des dizaines d'enveloppes !»«
Au moins 60, » aurait pu préciser Rothstein. « Peut-être même 80. » Avec 400 dollars pour les dépenses courantes dans chacune d'elles. Envoyé par Arnold Abel, mon comptable à New York. Ginny encaisse les chèques et ramène le liquide dans les enveloppes que je range dans le coffre. Sauf que j'ai pas grand-chose comme frais puisqu'Arnold règle aussi mes plus grosses factures depuis New York. Je donne un pourboire à Ginny de temps en temps et au facteur à Noël, mais sinon je dépense pratiquement rien. Des années que ça dure. Et pourquoi ? Arnold me demande jamais à quoi me sert cet argent. Il pense peut-être que j'ai un arrangement avec une prostituée ou deux, ou que je joue aux courses à Rockingham. « Mais tu veux savoir le plus drôle ?» aurait-il pu dire à Monsieur Jaune, alias Maury. « Moi non plus, je ne me le suis jamais demandé. Pas plus que je me demande pourquoi je continue à remplir carnet sur carnet. Certaines choses sont, voilà. » Il aurait pu dire tout ça, mais il se tut. Pas parce que Monsieur Jaune ne comprendrait pas, mais parce que le sourire entendu qui étirait ses lèvres rouges disait au contraire qu'il pourrait bien comprendre et qu'il s'en foutrait.
« Y a quoi d'autre dedans ?»
cria Monsieur Jaune. Son regard était toujours rivé à celui de Rothstein.
« Des boîtes ? Des boîtes à manuscrits ? La taille que je t'ai dit ? Pas des boîtes, des carnets !»
répondit Monsieur Rouge.
« Le putain de coffre en est rempli !»
Monsieur Jaune sourit, sans cesser de regarder Rothstein dans les yeux. « T'écris à la main ? C'est comme ça qu'on travaille, le génie ?»«
S'il vous plaît, » dit Rothstein, « laissez-les. Ces écrits ne sont pas destinés à être vus. Rien de tout ça n'est prêt à être publié. »«
Et le sera jamais, si tu veux mon avis. T'es qu'un gros écureuil, t'accumules. »
La lueur dans ses yeux, quelque chose d'irlandais dans le regard, aurait dit Rothstein, avait disparu.
Et puis, c'est pas comme si t'avais besoin de publier autre chose, hein? Pas comme si t'avais un quelconque impératif financier. T'as les droits d'auteur sur Le Coureur, et sur Le Coureur Voix de l'Action, et Le Coureur Ralenti. La célèbre trilogie Jimmy Gold, tirage jamais épuisé, enseigné dans toutes les universités de notre glorieuse nation. T'as tout un lectorat captif de jeunes étudiants qui achètent tes livres grâce à une cabale de profs de littérature qui pensent que toi et Saul Bellow, vous êtes les rois du monde. Tout va bien pour toi, non? Pourquoi risquer de tout gâcher en publiant un truc qui risquerait d'entamer ta réputation en or? Tu peux rester planqué ici à faire comme si le reste du monde n'existait pas.
Monsieur Jaune secoua la tête.
Avec toi, mon ami, la rétention anale prend un tout autre sens.
Monsieur Bleu attendait toujours dans l'encadrement de la porte.
« Je fais quoi, Maury ?»«
Va retrouver Curtis. Embarquez tout. Et s'il n'y a pas la place pour tous les carnets dans les sacs, fouillez un peu. Même un rat de cale comme lui doit bien avoir une valise. Et perdez pas de temps à compter l'argent non plus. Je veux qu'on se tire d'ici le plus vite possible. »«
Ok.
Monsieur Bleu, Freddy, quitta la pièce.
« Ne faites pas ça !»
répéta Rothstein. Et le tremblement de sa voix l'horrifia. Parfois, il lui arrivait d'oublier combien il était vieux. Mais pas ce soir. Le dénommé Maury se pencha vers lui, yeux gris vert le scrutant par les trous de la cagoule jaune.
« Je veux savoir un truc. Si t'es honnête avec moi, peut-être qu'on laissera les carnets. Tu promets d'être honnête avec moi, le génie ?»«
Je vais essayer, » répondit Rothstein. « Et je ne me suis jamais donné ce nom, vous savez. C'est le Time qui a parlé de génie. »«
Mais je parie que t'as pas écrit de lettre de protestation. »
Rothstein ne dit rien. « Fils de pute, » pensa-t-il. « Petit malin de fils de pute. Tu laisseras rien, hein ? Peu importe ce que je dis. »
« Voilà ce que je veux savoir. Pourquoi, au nom du ciel, t'as pas laissé Jimmy Gold tranquille ? Pourquoi il a fallu que tu le rabaisses à ce point ?»
La question était tellement inattendue que d'abord Rothstein ne vit pas du tout à quoi Maury faisait allusion, même si Jimmy Gold était son personnage le plus célèbre, celui pour lequel on se souviendrait de lui, à supposer qu'on se souvienne de lui. L'article du Time, qui avait parlé de génie, avait qualifié Jimmy Gold d'icône américaine du désespoir dans un pays de cocagne. Un ramassis de conneries, mais ça avait fait vendre des livres.
« Si vous êtes en train de me dire que j'aurais dû arrêter après le coureur, vous n'êtes pas le seul à le penser. »
« Mais presque, aurait-il pu ajouter. » Le coureur voix de l'action avait assis sa réputation d'auteur américain majeur, et le coureur ralenti avait été le couronnement de sa carrière, encensé par la critique. 62 semaines dans la liste des meilleures ventes du New York Times. National Book Award aussi, pas qu'il se soit déplacé pour le recevoir. L'Iliade de l'Amérique d'après-guerre, disait l'éloge, se référant non pas uniquement au dernier tome, mais à la trilogie tout entière.
« C'est pas ce que je dis, » répondit Maury. « Le coureur voix de l'action était tout aussi bon, peut-être même meilleur que le coureur. Ces deux-là étaient vrais.
Non. » C'est le dernier. De la bouffonnerie, ce truc, mec. Dans la pub ? Franchement, dans la pub ?
Monsieur Jaune fit alors un geste qui noua la gorge de Rothstein et changea son estomac en plomb. Lentement, presque pensivement, il retira son passe-montagne jaune, révélant un jeune homme au trait classique d'Irlandais de Boston. Cheveux roux, yeux verdâtres, peau blafarde qui cramerait toujours et bronzerait jamais. Plus ses insolites lèvres rouges.
Un pavillon de banlieue, une berline Ford dans l'allée, une femme et deux gosses. Tout le monde retourne sa veste. C'est ça que t'essayais de dire. Tout le monde mord dans la pomme.
Dans les carnets.
Il y avait deux autres romans de la saga Jimmy Gold dans les carnets. Voilà ce qu'il voulait dire. Deux romans qui bouclaient la boucle. Dans le premier, Jimmy ouvre les yeux sur la vacuité de sa petite vie bourgeoise et quitte sa famille, son boulot et sa confortable maison du Connecticut. Il part à pied, sans rien d'autre qu'un sac de randonnée et les vêtements qu'il a sur le dos. Il devient une version plus âgée du gosse qui a laissé tomber ses études, renié sa famille matérialiste et décidé de s'engager dans l'armée après un week-end passé à boire et à traîner dans les rues de New York.
« Dans les carnets quoi ?» demanda Maury. « Allez, le génie, parle !»
« Explique-moi un peu pourquoi tu l'as envoyé au tapis et tu lui as fait bouffer la poussière. »
Dans Le coureur part vers l'ouest, il redevient lui-même, voulait dire Rothstein. Il retrouve son être profond.
Sauf que maintenant, Monsieur Jaune avait montré son visage. Et il était en train de tirer un revolver de la poche de poitrine droite de sa veste de trappeur. Il paraissait attristé.
« T'as créé l'un des plus grands personnages de la littérature américaine ?» « Puis tu lui as chié dessus, » dit Maury. « Un homme capable de faire ça mérite pas de vivre. »
La colère revint en force, telle une douce surprise.
« Si vous pensez ça, » dit John Rothstein, « c'est que vous n'avez jamais compris un seul mot de ce que j'ai écrit. »
Maury pointa le revolver. Le canon ouvrit un œil noir. En retour, Rothstein pointa un doigt tordu par l'arthrite, comme si c'était son revolver à lui. Et eut la satisfaction de voir Maury cligner des yeux et broncher un peu.
« Vous pouvez garder pour vous vos critiques littéraires à la con. J'en ai eu ma dose bien avant que vous soyez né. Vous avez quel âge d'abord? 22 ans? 23? Qu'est-ce que vous connaissez à la vie? Sans parler de la littérature.
Assez pour savoir que tout le monde retourne pas sa veste.
Rothstein fut stupéfait de voir des larmes briller dans ses yeux irlandais.
Viens pas me donner des leçons de vie. Pas après avoir passé les 20 dernières années retranché chez toi comme un rat dans son trou.
La vieille attaque, plus que réchauffée, comment osez-vous déserter le panthéon de la renommée, attisa la colère de Rothstein, faisant flamber sa fureur, le genre de fureur à balancer des verres et fracasser les meubles que Peggy et Yolande auraient reconnus. Et il en fut soulagé. Plutôt mourir en fulminant qu'en rampant et implorant.
« Comment allez-vous monnayer mon travail? Vous y avez pensé? J'imagine que oui. Autant essayer de vendre un carnet d'Hemingway volé ou une toile de Picasso. Ça aussi, j'imagine que vous le savez. Mais vos amis sont pas aussi cultivés que vous, pas vrai? Ça s'entend à leur façon de parler. Ils savent ce que vous savez? Je suis sûr que non. Mais vous leur avez vendu des salades. Vous leur avez promis la lune, un quartier chacun. Je pense que vous en êtes capable. Je pense que vous disposez d'un réservoir de mots pour ça. Mais je crois que c'est un réservoir superficiel.
Ferme-la, on dirait ma mère.
Vous n'êtes qu'un vulgaire voleur, mon ami. Et comme c'est bête de voler quelque chose que vous ne pourrez jamais revendre.
Ferme-la, le génie, je te préviens.
Rothstein pensa. Et s'il tire? Plus de cachet. Plus de regrets d'un passé jonché de relations brisées comme autant d'épaves de voitures accidentées. Plus d'écriture obsessionnelle non plus. De carnets accumulés tels des petits tas de crottes de lapin disséminés le long d'un sentier dans les bois. Une balle dans la tête, ce serait peut-être pas si mal. Mieux qu'un cancer ou qu'Alzheimer. La hantise première de quiconque a gagné sa vie grâce à son esprit. Bien sûr, ça ferait les gros titres. Et j'en ai récolté à l'appel avant même ce maudit article du Time. Mais s'il tire, j'aurai pas à les lire.
Vous êtes un imbécile,
dit Rothstein. Tout à coup, il éprouvait une sorte d'extase.
Vous vous croyez plus intelligent que les deux autres, mais vous l'êtes pas. Eux au moins comprennent que l'argent, ça se dépense.
Il se pencha en avant, fixant du regard ce visage pâle éclaboussé de taches de rousseur.
Tu sais quoi, gamin? C'est les types comme toi qui font une mauvaise réputation à la lecture.
Dernier avertissement, dit Maury.
J'emmerde tes avertissements et j'emmerde ta mère. Flingue-moi ou dégage de chez moi.
Maurice Bellamy le flingua.